Le panneau volé par Alfred Mortier. Chapitre 1er. Le 5 décembre 1932, vers 7 heures du matin, au moment où le concierge de l'immeuble portant le numéro 133 bis de la rue de Provence s'apprêtait à balayer la cour, il s'étonna de voir entrebâiller la porte du derrière de la boutique occupée par l'antique Herscher. S'étant approché, il constata que la serrure avait été forcée et présuma qu'un cambriolage avait eu lieu. Il courut aussitôt chez le crémier contigu qui avait le téléphone et avertit le commissaire de police du 9e arrondissement. Ensuite, gravissant rapidement 4 étages, il informa son locataire Herscher de ce désagréable incident. Celui-ci, qui venait de se lever, s'habilla en hâte et déboucha sous la voûte d'entrée au moment même où l'inspecteur Mick arrivait en compagnie d'un agent. L'antiquaire était un veuf d'une 50aine d'années, assez grand, sec, presque chauve et entièrement rasé. Installé là depuis 15aine d'années, il jouissait d'une excellente réputation parmi les amateurs de tableaux anciens. Sa probité et sa compétence étaient reconnues dans ce domaine délicat où foisonnent les copies truquées et les fausses signatures. Ce matin-là, il paraissait fort ému, on l'eût été à moins, et suivit avec inquiétude le policier dans la cour. L'inspecteur regarda d'abord avec soin les traces de l'effraction tant du dehors que du dedans. Il essaya d'y discerner des empreintes, mais il n'y en avait pas, le malfaiteur ayant sans doute pris soin d'opérer avec des gants. Puis on pénétra dans la boutique. Le rideau métallique de la devanture fut relevé et à la clarté du jour, l'examen commença. Fait étrange, un ordre parfait régnait dans le local. Aucune vitrine n'était fracturée, aucun tableau n'était dérangé ou décroché. Au bout de quelques minutes, l'antiquaire s'écria « C'est extraordinaire. Il semble qu'on n'ait rien pris. J'avais là quelques bibelots précieux, et le long de cette paroi, 3 toiles de valeur importante, un Terberg, un petit Ghirlandaio, un portrait de Nattier. Voyez, monsieur l'inspecteur, ils y sont toujours, je ne comprends pas. » Mick, non moins surpris que lui, le regardait d'un air perplexe. Tout à coup, Herscher se frappa le front, courut une armoire normande, l'ouvrit et poussa un cri. « Le Van der Weyden a disparu !» rugit-il. « Sacrebleu, ça c'est terrible !» Valait-il plus que les autres ? Interrogea Mick. « Ce n'est pas la question. Ce tableau ne m'appartenait pas, ou plutôt, ne m'appartenait plus. » Il explique alors que ce tableau représentait un personnage agenouillé, probablement le donateur d'un triptyque, qu'il avait vendu 5 jours auparavant à un riche amateur, le comte de Mercœur, moyennant la somme de 50 000 francs payés comptant, mais que l'acquéreur, un de ses plus fidèles clients, lui avait laissé le panneau pour quelques jours en vue de le nettoyer et de réparer le cadre endommagé. « C'est un coup dur pour moi, » conclut Herscher, « surtout en ce moment de crise, car vous pensez bien que mon premier devoir sera de rembourser mon client. Je suis responsable, tant pis pour moi. » Mick demanda l'adresse de M. de Mercœur, auquel il désirait poser quelques questions. Herscher la lui donna, puis libella séance tenante un chèque de 50 000 francs en priant l'inspecteur de le remettre au bénéficiaire et de lui présenter tous ses regrets pour la déplorable aventure qui privait le client de son acquisition. Au bout d'une heure, Mick revint sans avoir rien appris de nouveau. Le comte s'était montré très sensible aux gestes spontanés de l'antiquaire, et tout en déplorant vivement le vol dont ils étaient tous deux les victimes, il avait chargé le policier de remercier Herscher de son chèque et de lui dire qu'il lui conservait toute son estime. « Au fond, conclut Mick, c'est vous qui êtes le plus lésé, car le comte retrouve son argent, tandis que vous, vous perdez le tableau et l'argent. « Je ne désespère pas encore, » répondit Herscher, « car votre habileté m'est connue. N'est-ce pas vous qui avez découvert la fameuse bande des voleurs d'église qui mit à sac quelques villages du Limousin ?»« Oui, » dit Mick, « et soyez sûr que je ferai l'impossible pour retrouver ce Van der Weyden, car cette affaire m'intéresse. Elle est assez curieuse, quoique d'apparence banale. » L'inspecteur fit alors subir au concierge un interrogatoire serré. Celui-ci déclara que durant la nuit, il n'avait entendu aucun bruit insolite. Sur 10 locataires, 4 seulement étaient sortis entre 8h15 et 9h du soir. Ils étaient rentrés entre minuit et minuit et demi en se nommant, et le concierge avait reconnu leur voix, car il avait mal dormi en raison d'une entérite. Parmi eux était M. Herscher, qui était rentré vers 8h15 et ressorti vers 9h pour aller au cinéma, l'avait-il déclaré en passant devant la loge. Ces détails furent confirmés par l'antiquaire, qui désigna même le cinéma où il avait passé la soirée, un établissement du quartier où il était connu et où il allait régulièrement. Mick se gratta l'occiput, ce qui était chez lui le signe d'un profond embarras. l'affaire se présentait mal. « Voyons, dit-il au concierge, faites un effort de mémoire. Si le cambriolage n'a pas eu lieu la nuit, il n'a pu s'effectuer qu'au début de la soirée. En cette saison, il fait nuit dès 7h30. Le panneau volé a presque 1 mètre de long, c'est un objet difficile à dissimuler. Avez-vous remarqué quelqu'un qui serait sorti de la maison entre 7h30 et 8h du soir ?»« Vous savez, monsieur l'inspecteur, il sort et il entre beaucoup de monde, des ouvriers, des encaisseurs, des livreurs. Pourtant, en effet, il me semble avoir entrevu à la fin de la journée un homme qui est sorti avec un paquet. Tâchez de vous rappeler son aspect, son visage. Ça, c'est difficile. Il est passé très vite. Il m'a paru plutôt grand. Il était coiffé d'une casquette et portait, je crois, une barbe noire. Voilà mon voleur, pensa Mick. Mais comment le retrouver avec un signalement aussi vague? Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Avant d'aller déjeuner, le policier décida de jeter un dernier coup d'œil à la boutique de l'antiquaire. Celui-ci était en train de montrer un tableau à un amateur. Mick manœuvra discrètement, flânant çà et là, comme un client qui attend son tour. Il n'observa rien de particulier. Il allait ressortir par la porte de derrière lorsqu'il aperçut, en inspectant le parquet, quelques points noirs emmêlés. À tout hasard, il les ramassa, les glissa dans son portefeuille et sortit sans bruit. Chapitre 2e. Une semaine s'écoula. Le comte de Mercœur et l'antiquaire avaient téléphoné à plusieurs reprises au commissariat pour savoir si l'on était sur la piste du tableau. Inquiétude bien naturelle, si l'on songe que le comte eût préféré son Van der Weyden à la somme restituée, et que Herscher perdait 40 000 francs dans l'affaire, car le panneau, acheté chez un fermier de Belgique, ne lui avait coûté que 10 000 francs. Au bout de 15 jours de vaines recherches, le commissaire avait déclaré à Mick qu'en raison des faibles éléments d'information, il n'en restait plus qu'à classer l'affaire. Mais l'inspecteur refusait de se tenir pour battu. Il avait l'impression que cette histoire présentait des côtés suspects, qui peu à peu, à la réflexion, s'étaient précisés dans son esprit. D'abord, comment se faisait-il que cet étrange cambrioleur eût précisément emporté ce panneau de Van der Weyden caché au fond d'une armoire et eût négligé de s'emparer du Terburg, du Guirlandaio, du Nattier, précieux butin qui s'étalait bien en vue et qui, valant à eux trois bien davantage, était en raison de leur petite dimension beaucoup plus facile à dissimuler. De même, il n'avait rien pris dans les vitrines qui pourtant renfermaient des bibelots de prix dont il eût pu, sans risque, lester ses poches. Il fallait donc que le voleur connût l'existence du Van der Weyden et qu'il eût résolu de s'en tenir uniquement à ce larcin. La conclusion s'imposait, le voleur était un collectionneur et non un professionnel du cambriolage. Il lui fallait ce panneau et ne pouvant l'acheter, il l'avait dérobé. Peut-être aussi savait-il qu'il était vendu et qu'il ne pourrait plus l'acquérir que par ce moyen délictueux. D'autre part, en quoi ce tir de tableau, ce volet, pouvait-il le passionner au point de le conduire jusqu'à un acte aussi dangereux? Peut-être parce que ce collectionneur possédait déjà les deux autres volets du triptyque. L'inspecteur se frotta les mains. Il se sentait maintenant sur un terrain plus solide. Il lui restait dès lors à découvrir ce collectionneur, ce qui n'était d'ailleurs point chose facile. Après réflexion, Mick se rendit au musée du Louvre, dont il connaissait l'un des conservateurs adjoints, ayant été en relation avec lui à l'occasion d'une statuette volée l'année précédente. Ce savant fonctionnaire, après avoir consulté ses fiches, l'informa qu'en Europe on ne connaissait que 4 triptyques d'hôtels de Van der Weyden qu'il figurait dans les musées et que tous 4 étaient au complet. Mais il avait entendu dire naguère qu'un milliardaire américain nommé Clifford Norton, collectionneur célèbre, possédait plusieurs Van der Weyden, sans néanmoins pouvoir affirmer qu'il s'agit de tableaux d'hôtel. Mick le remercia et s'en fut, plus embarrassé que jamais. Quelle apparence y avait-il à ce qu'un milliardaire américain osât risquer un pareil coup? Cela ne tenait pas debout. Toutefois, par acquis de conscience, il se rendit à la préfecture et consulta le registre des garnis, section des palaces de luxe. Après 2 jours de patiente recherche, il lut non sans tressaillir « Hôtel Majestic, R.K. Clifford Norton de Chicago, arrivé le 10 novembre, parti le 7 décembre. » Coïncidence ou piste? Une demi-heure plus tard, le policier conférait discrètement avec le directeur du Majestic. Dès l'abord, il fut complètement déçu. M. Clifford Norton, le roi des semelles en caoutchouc, qui occupait 20 000 ouvriers, était un vieillard à cheveux blancs, un valétudinaire, affligé d'une arthrite de la hanche, marchant avec peine, toujours soutenu par un domestique et ne sortant qu'en voiture. Mick quitta l'hôtel en maugréant. Il était radicalement impossible que l'Américain eût fait le coup. Mais, songea-t-il ensuite, quelqu'un a pu le faire pour son compte. Qui? quelqu'un de son entourage, mais on lui avait dit qu'aucun de ses deux secrétaires ne portait la barbe et qu'ils étaient blonds tous les deux. Après avoir senti la terre ferme, Mick pataugeait de nouveau. Cet homme à barbe noire hantait sa cervelle depuis 15 jours. Tout à coup, il eut un éblouissement. Quelque chose dans son subconscient venait de se déclencher. « Sapristi, que je suis bête » murmura-t-il. Il entra chez un coiffeur du faubourg Saint-Honoré, prit son portefeuille, montra sa carte d'inspecteur, puis tira d'une enveloppe quelques points noirs. « C'est bien ce que vous appelez du crépé, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » lui répondit l'érudit capillaire. « C'est de cela que se servent les artistes de théâtre pour se coller une fausse barbe. » Mick sortit et respira largement. Désormais, il se sentait sur la bonne voie. Il descendit à pied le boulevard Haussmann, et durant ce long trajet, les pièces du puzzle s'ordonnèrent peu à peu dans sa tête. En arrivant à la hauteur de la rue Lafayette, il enfila la rue de Provence, et quelques minutes plus tard, il entrait sans façon dans la boutique d'Hercher. Ce dernier, qui était en train de nettoyer un tableau, l'accueillit avec un aimable sourire, le fit asseoir et lui offrit un cigare. « Eh bien, monsieur Mick, à quoi dois-je le plaisir de votre visite? Auriez-vous du nouveau ?»« Fait Mick, et vous, êtes-vous un peu consolé de votre malheureuse affaire ?»« Il faut bien se faire une raison, » répondit paisiblement Hercher. « En somme, où en êtes-vous ? Je crois avoir fait quelques découvertes intéressantes. Ainsi, l'homme à barbe noire qui a fait le coup, eh bien, portait une fausse barbe, qu'il s'est collé sur la figure avant de sortir d'ici vers 8 heures du soir. À preuve, ces poils que j'ai trouvés par terre sur votre plancher. Oh, que c'est curieux, dit Hercher. Et pourquoi cette fausse barbe? Pour ne pas être reconnu du concierge, qui par conséquent le connaissait. Vous voyez comme cela limite subitement le champ des recherches. En effet, vous supposez donc que c'est quelqu'un de la maison. Il n'en faut pas douter. D'autre part, dès la première heure, j'avais fait une constatation bizarre, à savoir que la porte forcée avait été non de l'extérieur, mais de l'intérieur, les traces de la pesée ayant çà et là écorné le chambranle. « En ce cas, dit Hercher, il faudrait en conclure que le malfaiteur s'est faufilé ici à la tombée de la nuit et qu'il s'est laissé enfermer pour sortir ensuite en forçant la porte. C'est ce que j'ai cru, comme vous, tout d'abord. Mais à mon second examen des lieux, je me suis rendu compte que c'était bien improbable. Vous avez déclaré dans votre déposition que vous n'aviez pas quitté votre magasin de tout l'après-midi, et que vous l'aviez fermé comme tous les soirs vers 7h30. Il faudrait donc supposer que le voleur se serait introduit ici par la porte de derrière sans que vous l'eussiez entendu. Or, cette porte, mal graissée, au gond rouillé, grince fortement. Je m'en suis assuré. D'autre part, votre boutique n'est pas grande, et elle est tout encombrée de tableaux et de meubles dans la partie du fond. Tenez, regardez vous-même. Je me demande où un homme ici aurait pu se dissimuler. « Derrière cette grosse commode Louis XIV, peut-être, » dit Hercher. « Ce ne serait pas impossible, » répliqua l'inspecteur, « mais cela n'a pas eu lieu, car la commode n'est qu'à 40 centimètres du mur, et le frottement d'un corps y aurait laissé des traces. Or, veuillez remarquer que l'épaisse couche de poussière qui recouvre le mur est intacte. »« C'est vrai, » dit Hercher. « Alors je ne sais plus. En êtes-vous bien sûr ?»« Quoi, que voulez-vous dire ?» s'écria l'antiquaire en haussant le ton. « Oseriez-vous prétendre que je connais le voleur ?» Que je lui ai facilité son méfait, peut-être, moi. Raisonnons, dit paisiblement Mick. Personne, vous présent, n'a pu s'introduire ici à votre insu, ni s'y cacher. Or, la porte est forcée de l'intérieur, ce qui n'est d'ailleurs qu'une mise en scène. Donc, première hypothèse, vous avez un complice. Mais non, car un complice, a priori inconnu du concierge, n'avait pas besoin de se coller une fausse barbe. Donc c'est vous, et vous seul, qui avez opéré. Monsieur. « Ne vous emballez pas. Je tâche de reconstituer vos faits et gestes. Le 4 décembre à 7h30, vous baissez le rideau métallique comme d'habitude. Mais vous ne sortez pas de la boutique. Vous simulez un forçage de la serrure sur cour, vous vous collez du crépé noir au menton, vous vous coiffez d'une casquette, et après avoir éteint l'électricité, vous emportez le panneau. Nous verrons tout à l'heure à qui vous l'avez remis. Une fois débarrassé de cet objet, dans un coin d'ombre, dans un taxi, dans un urinoir, peut-être... Vous décollez votre fausse barbe, vous recoiffez votre feutre ordinaire, gardez dans une poche du par-dessus, et vous reparaissez à 8h15 devant la loge du concierge comme si vous étiez allé faire un petit tour après la fermeture du magasin. Vous montez chez vous, et à 9h, pour compléter l'alibi, au cas où la police se tromperait et fixerait l'heure du vol entre 9h et minuit, vous allez passer la soirée dans un cinéma où l'on vous connaît. À minuit et quart, vous rentrez en vous nommant bien distinctement, et vous vous endormez du sommeil du juste, avec la conscience d'avoir admirablement combiné votre affaire, ce qui, je me plais à le reconnaître, est parfaitement exact. » Durant ce discours, l'antiquaire paraissait s'être ressaisi, quoiqu'il fût innocent, soit qu'il eût trouvé à se justifier. « Monsieur l'inspecteur, dit-il d'une voix mesurée, vos déductions sont aussi habiles qu'ingénieuses, mais laissez-moi vous dire d'abord que j'ai mon actif 20 ans de probité reconnue. J'ai une clientèle d'élite qui sait que je ne me suis jamais livré à aucun de ces tripotages si fréquents dans notre commerce. Pourquoi voudriez-vous que j'aie risqué de compromettre ma réputation fructueuse dans une opération aussi frauduleuse qu'aléatoire? Au surplus, il n'existe pas de délit sans mobile. Voulez-vous me dire pourquoi j'aurais commis ce vol? Voulez-vous me préciser ce que j'y aurais gagné? Voilà un panneau que j'ai vendu au comte de Mercœur et bien vendu puisqu'il m'a rapporté 40 000 francs de bénéfices. Or si, comme vous le prétendez, j'avais soustrait ce tableau, j'aurais agi avec la dernière absurdité, étant donné que j'ai immédiatement remboursé au comte de Mercœur le montant de son prix d'achat. Ah ! Répliqua Mick. Ce chèque de 50 000 francs fut, de votre part, un coup de maître. Il m'a longtemps bouché l'horizon, masqué la vérité. Comme vous le dites, il n'y a pas de délit sans mobile. Et même lorsque mes déductions m'eurent amené à vous soupçonner, je n'arrivais pas à comprendre l'intérêt que vous auriez eu à faire disparaître le Van der Weyden. Ce problème, je l'ai tourné et retourné plus de 100 fois dans ma tête. Et pourtant, la solution me crevait les yeux. C'était enfantin, et il suffit de rapprocher certains éléments pour résoudre l'énigme. Mais comme toujours, je passais à côté de la vérité sans l'apercevoir. « Et maintenant, dit l'antiquaire d'une voix ironique, vous la détenez, cette vérité ?»« Oui, cher monsieur, riposta Mick sur le même ton. Et je vous le répète, c'était enfantin. Ainsi que vous venez de le dire, le nœud du problème était dans le mobile, dans l'intérêt que vous pouviez avoir à reprendre ce panneau. Eh bien, l'intérêt que peut avoir un marchand à perdre 40 000 francs ne se conçoit que s'il est certain d'en récupérer beaucoup plus d'un autre côté. Et s'il a, comme vous, derrière lui, 20 ans de probité et une réputation commerciale fructueuse, il a fallu, pour qu'il y renonçât, l'appât d'un bénéfice énorme. J'imagine d'ici la scène. Un collectionneur passe, aperçoit le panneau, veut l'acheter. On lui répond qu'il est vendu. Combien ? 50 000 francs. J'en offre 100 000. Impossible. 150. 200 000. Impossible. Ce serait une affaire frauduleuse, et ma probité m'interdit 250 000 francs. Le marchand flanche, mais résiste encore. 300 000 francs. Lance l'amateur. Le marchand pâlit. À ce prix, il gagne 290 000 francs, une fortune. Pourtant, il proteste encore. Sa réputation commerciale. 500 000 francs, lance l'acheteur, qui voit son homme groggy. L'affaire est conclue. Au besoin, si ce véritable abus de confiance s'ébruitait dans la clientèle, le coupable en serait quitte pour fermer boutique et aller planter ses choux. Mais le sieur Herscher est un malin, qui ne tient pas du tout à se retirer des affaires. C'est alors qu'il imagine un vol fictif qui mettra sa réputation de probité à couvert. Il remboursera 50 000 francs au comte de Mercœur, fraude admirable, chasse et croisée merveilleux, qui de coupable le fera passer pour victime et le tour sera joué. Fraude qu'il faudrait prouver, dit Herscher, crânant encore. Personne ne voudra jamais croire qu'il existe quelque part un amateur assez riche et surtout assez mal avisé pour offrir un 500 000 d'un tableau qui n'en vaut pas la 10e partie. Il en existe un, pourtant, dit Mick en le regardant dans les yeux. Eh bien, trouvez-le. Il s'appelle Clifford Norton. Il gagne 100 000 par an. Et s'il est allé jusqu'au 500 000, c'est que ce panneau constituait le volet qui manquait à son triptyque, lequel, ainsi complété, vaudra largement 1 000 000 et même davantage. Cet Américain fut donc loin d'être un amateur mal avisé. Herscher, termina froidement le policier, préparez-vous à comparaître devant le juge d'instruction, et n'essayez pas de fuir, j'ai l'œil sur vous. L'antiquaire était devenu blême. Quelques gouttes de sueur perlaient à ses tempes, mais c'était un homme d'une intelligence et d'une trempe ordinaire. Il le fit voir une fois de plus. Monsieur l'inspecteur, dit-il sans émotion apparente, je suis prêt à affronter la justice. Mais laissez-moi vous dire que juridiquement et pratiquement, il n'en résultera pas grand-chose. Le comte de Mercœur ayant été remboursé, il est peu probable qu'il soutienne la plainte, d'autant plus que le panneau est présentement en Amérique et n'en reviendra jamais. Le marché est resté secret et sans trace. Les billets de banque m'ont été remis de la main à la main dans un taxi. Si l'on se hasarde à poursuivre M. Clifford Norton, il prétendra qu'il possédait ce panneau et que celui qu'on a volé ne peut être qu'une réplique ou une copie. Comment démontrerez-vous le contraire? Il n'en existe même pas une photographie. Au besoin, M. Clifford Norton fera même intervenir son ambassadeur pour protester contre le soupçon dont il est l'objet, d'où incident diplomatique, que le gouvernement français, pour un simple panneau, se hâtera d'éviter par un non-lieu. Quant à moi-même, vous supposez bien qu'à l'instruction, je me défendrai. Sur quoi repose votre inculpation? Sur quelques poils trouvés par terre et sur le fait qu'on n'a rien volé que le von der Weyden. Avouez que c'est plutôt faible comme présomption. Vous avez la satisfaction intime d'avoir résolu une énigme difficile. Contentez-vous-en. Il va de soi que devant le juge, je soutiendrai mordicus que je ne vous ai fait aucun aveu. Alors à quoi bon ce petit scandale qui, je le répète, peut soulever un ennui diplomatique et vous valoir un désaveu de la part de vos supérieurs? Vous voyez que c'est une affaire dans laquelle personne n'aura rien à gagner. Dans ces conditions, je ne vous ferai pas l'injure de vous offrir 20 000 francs pour vous taire. Je sais que vous êtes incorruptible, mais je vous propose, en échange de votre silence, de verser ces 20 000 francs aux pauvres de la ville de Paris. Acceptez-vous? Vous me blâmerez peut-être, me dit Mick en me racontant cette histoire, mais j'ai accepté. Cette fripouille avait raison, cette affaire-là n'aurait abouti à rien, et Herger avait trouvé l'argument qu'il fallait pour me clore le bec. Après tout, mon habileté avait rapporté 20 000 francs aux pauvres. C'était un résultat plus profitable que la condamnation problématique d'un commerçant indélicat, et ma conscience s'en accommoda. Ainsi s'achève Un panneau volé par Alfred Mortier.